Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Les catholiques en Chine apportent une importante contribution pour la paix. Des mots du pape François dans son vidéo-message à l'occasion des 100 ans du premier concile de l'Église catholique en Chine. C'était à Shanghai en 1924. Un congrès se tient à l'Université pontificale urbanienne à ce sujet. Les condoléances du pape à la suite de la mort du président iranien Ebrahim Raisi. Le Saint-Père qui a ouvert la 79e Assemblée Générale de la Conférence Épiscopale Italienne. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira au Burkina Faso et au Tchad. Accord entre le Niger et les États-Unis d'Amérique pour les désengagements des forces américaines présentes dans ce pays du Sahel. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique que nous conduira aussi en Égypte. Une conférence pour célébrer la journée de l'Afrique le 25 mai, organisée par les supérieurs religieux africains en mission dans les généralats. Vous suivrez au cours de cette édition le supérieur général des missionnaires spiritains, le père Alain Mayama. Nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Cambachi.
Un colloque important s'est ouvert mardi à l'Université pontificale urbanienne de Rome. Un congrès pour marquer les 100 ans du premier concile de l'Église catholique en Chine, celui de Shanghai le 15 mai 1924. Il s'agissait à l'époque d'encourager et d'accompagner l'éclosion d'une église autochtone en Chine. Parmi les invités présents à cette rencontre, il y a notamment l'évêque de Shanghai, Mgr Joseph Chen Bin, pour les Vatican, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et le cardinal Luis Antonio Tagle, propre-préfet du dicastère pour l'évangélisation. La matinée des mardis a été marquée par la diffusion d'un vidéo-message enregistré par le pape François à destination des catholiques chinois, un message dans lequel le Saint-Père est revenu sur la foi des catholiques de Chine et leur cheminement à travers l'histoire et leur rôle dans la société d'aujourd'hui.
Les participants au premier Concilium Sinense ont regardé vers l'avenir, et leur avenir est notre présent. Le cheminement de l'Église à travers l'histoire est passé et passe par des chemins imprévus, même à travers des temps de patience et d'épreuves. Le Seigneur, en Chine, a gardé la foi du peuple de Dieu tout au long du chemin. Et la foi du peuple de Dieu a été la boussole qui a montré le chemin tout au long de cette période, avant et après le concile de Shanghai, jusqu'à aujourd'hui. Les catholiques chinois, en communion avec l'évêque de Rome, marchent dans le temps présent. Dans le contexte où ils vivent, ils témoignent aussi de leur foi par des œuvres de miséricorde et de charité, et dans leur témoignage, ils apportent une contribution réelle à l'harmonie de la coexistence sociale, à la construction de la maison commune. Celui qui suit Jésus aime la paix et est solidaire de tous ceux qui œuvrent pour la paix, à une époque où nous voyons agir des forces inhumaines qui semblent vouloir accélérer la fin du monde.
L'accompagnement des prêtres, les idéologies du monde d'aujourd'hui, les jeunes qui quittent leur pays pour aller à la recherche d'une vie meilleure, la baisse des vocations, l'unification des diocèses italiens, une procédure qui pourrait être interrompue, la prière pour la paix en Terre Sainte lundi au Vatican. Ce sont différents thèmes qui ont été abordés lors de l'échange entre le pape et les évêques italiens lundi. Le Saint-Père a ouvert la 79e Assemblée Générale de la Conférence Épiscopale Italienne. Quelques 200 évêques italiens étaient présents. Les condoléances du pape François à la suite de la mort du président iranien Ebrahim Raisi. Dans un message adressé lundi au grand ayatollah Ali Khamenei, chef suprême de la République d'Iran, le Saint-Père a exprimé sa douleur pour la mort du président Raisi et de son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdelayan, ainsi que d'autres personnes qui ont péri. Le pape assure sa proximité spirituelle à toute la nation iranienne, prie pour les âmes des défunts ainsi que leurs familles, et tous ceux qui pleurent leur perte. Les présidents iraniens Ebrahim Raisi et d'autres passagers ont péri dimanche dans un accident d'hélicoptère. Leurs funérailles ont commencé mardi. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Burkina Faso. Les frères des écoles chrétiennes ont clôturé les jubilés d'albâtre de leur présence dans ce pays. 75 ans au service de l'éducation intégrale et des qualités de la jeunesse. Paul Da y était présent.
Ouverte le 13 mai 2023 à Ouagadougou, l'année jubilaire des 75 ans des frères des écoles chrétiennes au Burkina Faso, s'est achevé le samedi 18 mai 2024 à Bobo Dioulasso par une messe solennelle. Cette célébration a été présidée par Mgr Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora. De nombreux prêtres y ont concélébré, en plus de l'ordinaire du lieu, Mgr Paul Ouedraogo, de l'évêque de Diébougou, Mgr Raphaël Dabiré, et du président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré. Au nom des évêques de la conférence, il s'est adressé aux jubilaires en ces termes. Chers frères, votre présence dans notre espace ecclésial a été en 75 ans riche et féconde en multiples grâces d'éducation et de qualité, d'éducation intégrale de l'homme et d'éducation transformative, respectueuse de la personnalité, de la culture et de la religion de vos élèves. Grâce à vous, de nombreux jeunes ont librement embrassé la foi catholique avec enthousiasme, devenant ainsi d'excellents cadres qui font aujourd'hui la fierté de l'Église et de notre pays. À peu de mots près, les autres intervenants comme l'évêque président de la célébration, le parrain du jubilé, Monsieur Armand Daniel, ou encore le frère directeur du district lassalien d'Afrique de l'Ouest, frère Yao Rodrigue Topen, sont allés dans le même sens. Pour ce dernier, cette clôture a été le lieu non seulement de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'envisager l'avenir avec des innovations pédagogiques. Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Au Tchad, plus de 800 chrétiens ont reçu le sacrement des confirmations dans quelques diocèses le dimanche des Pentecôtes. Le compte-rendu d'Edouard Takadji.
Ils sont 360 chrétiens de différents secteurs de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kumogo dans les diocèses de Sar à recevoir le sacrement de la confirmation des mains de Mgr Yankalngaro Pascal, vicaire général du diocèse. Dans son homélie, Mgr Yankalngaro Pascal demande à ses confirmés d'être des artisans de la paix et de l'unité dans leur milieu de vie et qu'ils soient des modèles pour les autres, mais également de mettre la prière au centre de leur vie. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Pala, c'est l'ordinaire du lieu, Mgr Dominique Tinodi, qui a conféré le sacrement de la confirmation à 213 chrétiens. L'évêque de Pala dit que la confirmation augmente en chaque chrétien la force de l'Esprit Saint. L'archidiocèse de N'Djamena a accueilli de son côté 38 confirmés, dont 32 sont de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Amtoukoui, ayant reçu ce sacrement des mains de l'abbé Achille Dimoy Teldim, vicaire épiscopal en charge de l'éducation. Et les 6 autres sont de la paroisse cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena, qui entrent dans la grande famille par les mains de Mgr Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena. Dans son exhortation, l'archevêque de N'Djamena lance un appel aux nouveaux confirmés et aux chrétiens en un changement de comportement grâce à l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Dans le diocèse de Gorée, enfin, le vicaire général Mgr Jean Aloula, qui a administré ces sacrements à 194 chrétiens. N'Djamena, Edouard Takadji pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Plusieurs personnes ont été tuées mardi après qu'un minibus s'est abîmé dans le Nil, au nord du Caire, a indiqué un porte-parole du ministère égyptien de la Santé, Ossam Abdel Ghaffar. Selon le journal Al Ahram, qui a été le premier à faire état de l'accident, le minibus est tombé d'un ferry traversant le fleuve, le conducteur du bus n'ayant pas tiré les freins à main. D'autres personnes ont été portées à l'hôpital. Le parquet a ouvert une enquête et ordonné une inspection technique du minibus, selon le journal. Le Niger et les États-Unis d'Amérique ont trouvé un accord sur les désengagements des forces américaines présentes dans ce pays sahélien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les opérations de retrait de ces forces vont se dérouler jusqu'au milieu du mois de septembre prochain, selon les communiqués conjoints signés par les deux parties à l'issue d'une visite à Niamey des responsables du Pentagone. Notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, revient sur les contextes de ces retraits qui sonnent la fin de la coopération militaire entre les deux pays.
Le retrait des troupes américaines du Niger est une exigence des autorités militaires au pouvoir à Niamey depuis le 26 juillet 2023. Après avoir obtenu le départ des soldats français, la junte militaire dirigée par le général Abdramane Kiani a en effet dénoncé en mars dernier l'accord qui liait le Niger aux États-Unis sur le plan militaire, estimant qu'il viole les règles constitutionnelles et démocratiques. Il a été imposé, selon les militaires, unilatéralement par les États-Unis au Niger par une simple note verbale, ce qui, à leurs yeux, rend la présence militaire américaine au Niger illégal, s'expliquant récemment dans les colonnes d'un journal américain sur la rupture de la coopération militaire avec les États-Unis. Le premier ministre nommé par la junte a évoqué une autre raison ayant justifié la décision des autorités nigériennes, la menace de diplomates américains contre le régime de Niamey si celui-ci venait à signer un accord avec l'Iran pour vendre à ce dernier de l'uranium. Mi-avril, Washington a accepté de retirer ses plus de 1000 soldats. Ils s'en iront ainsi, laissant derrière une stratégique base de drones construit dans le nord nigérien pour surveiller les activités des groupes terroristes qui écument la zone. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
La présidentielle du 29 juin en Mauritanie mettra aux prises les sortants Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et 6 autres hommes, indique la liste définitive des candidats publiée lundi par les conseils constitutionnels. Samedi 25 mai sera célébrée la Journée mondiale de l'Afrique, une journée instituée en 1963, marquant l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Pour commémorer cette journée, l'Association des Africains et Malgaches au service des Généralats à Rome organise une conférence autour du thème « L'Afrique ensemble, prier, dialoguer et célébrer ». Le père spiritain congo-brazzavillois Alain Mayama, supérieur général des missionnaires spiritains, membre de cette association, nous explique les enjeux de cette célébration.
Alors, le but, c'est simplement sensibiliser les Africains de la diaspora, notamment ceux qui sont à Rome, et le corps diplomatique africain ici à Rome, tous ceux qui sont aussi liés au service du Saint-Siège, la communauté académique, de tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Et partager sur les sujets qui concernent l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons intitulé, enfin, le thème de la journée, l'Afrique ensemble, prier, dialoguer et célébrer.
Mais d'abord, avant de venir sur l'Afrique ensemble, prier, dialoguer et célébrer, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le but de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique?
Alors, le but de la célébration au niveau international et au niveau du continent africain. Alors, je crois que quand le 25 mai, l'OIE a décidé, à l'époque, hein, 1963, a décidé d'avoir cette journée pour l'Afrique, c'est justement pour commémorer la libération de l'Afrique. Le mouvement de libération, ce n'est pas seulement se libérer de l'Occident, de tout ce qui constitue notre histoire commune, mais surtout se reconnaître aussi que l'Afrique a désormais la responsabilité de prendre en charge son avenir en main et de se libérer de toutes les nations qui ne leur permettent pas de s'exprimer ou de prendre leur place dans le Conseil des Nations.
Maintenant, on va revenir sur la conférence que vous organisiez pour commémorer cette journée. En quoi est-ce que la thématique choisie peut aider dans le sens de rapprocher au mieux les Africains pour répondre à l'objectif fixé par ceux qui ont initié la célébration de cette journée?
Et d'abord, je crois que faire connaître l'association. Et religieux, religieuses, nous rassemblons en congrégation et en cette association pour essayer de faire comprendre aux gens que l'Afrique a une voix à porter. Et l'Afrique a des choses à proposer. Et avoir une conversation ensemble, avoir une conversation avec les différentes sensibilités pour parler de l'Afrique, des questions de l'Afrique. Et chaque personne qui arrive, bon, parce qu'il ne concerne pas que les Africains, il y a des amis des Africains qui arrivent. Alors, ce temps de dialogue et ce temps de célébration, ce temps de prière va permettre à ce qu'on chante ensemble, qu'on ait une conversation sur les questions qui touchent l'Afrique.
Et selon vous, que peuvent faire de mieux les religieux comme contribution dans le but de mieux unir les Africains?
Je crois que les congrégations religieuses ont beaucoup à apporter du point de vue de la sensibilisation parce que nous sommes répandus dans plusieurs pays d'Afrique déjà et du monde. Ce qui fait que à travers les écoles, les structures que nous animons, nous pouvons atteindre un plus grand nombre de publics et puis sensibiliser les gens sur les questions qui touchent l'Afrique aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que les religieux et religieuses peuvent contribuer à faire prendre conscience aux gens qu'il y a en Afrique non seulement les besoins de libération hein, par rapport à d'autres nations, mais il y a aussi surtout les besoins de primaire, d'éducation, de formation. Et toutes ces questions-là pourraient aider les gens à comprendre qu'il y a l'espérance. Tout n'est pas perdu en Afrique.
Le père Alain Mayama, originaire du Congo-Brazzaville, supérieur général des missionnaires spiritains, membre de l'Association des Africains et Malgaches au service des Généralats. Il était interrogé par Jacques Ngol. Prise des positions des évêques et vie des chrétiens dans le monde, c'est notre rubrique du jour. Parole à Jacques Ngol.
Commençons cette rubrique par la Belgique qui accueille avec joie l'annonce de la visite apostolique du pape François annoncée par la salle de presse du Saint-Siège lundi 20 mai. Le Saint-Père se rendra du 26 au 29 septembre prochain à l'occasion du 60e anniversaire des universités catholiques de Louvain et de Louvain-la-Neuve. Depuis, le visage de l'Église a bien changé. C'est ce que nous explique le père Tony Scholte, porte-parole francophone des évêques, exprimant également l'attente des fidèles. On l'écoute.
Alors l'Église de Belgique est évidemment dans une situation différente d'il y a 25-30 ans. La sécularisation est une réalité. En même temps, il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui sont extrêmement vivantes. Et donc, il y a évidemment une diminution du nombre de prêtres, mais en même temps, il y a une augmentation du nombre de responsables laïcs. Et donc, beaucoup de réalités sont très très belles à reconnaître, à rencontrer. Et donc le pape, en rencontrant les fidèles, que ce soit sur les deux sites de l'université ou à travers la célébration eucharistique, aura l'occasion de prier, d'écouter, de rencontrer des jeunes, des étudiants, des enseignants aussi, des académiques. Et donc, il se rendra un peu mieux compte de cette réalité.
Alors que l'Europe se prépare aux élections européennes de juin 2024, des représentants des diverses églises se sont réunis à Thessalonique, en Grèce, du 15 au 17 mai 2024 pour souligner le rôle des valeurs chrétiennes dans la politique et la société européenne dans le contexte de sécularisation croissante. Dans un texte signé par la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la Conférence des Églises européennes et l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie et le mouvement Ensemble pour l'Europe, qui rassemble plus de 150 mouvements et communautés nouvelles de toute l'Europe, appelle à redécouvrir les valeurs chrétiennes de l'Europe. Nous notons avec regret que des valeurs qui étaient autrefois considérées comme évidentes, telles que la paix, la stabilité, la prospérité et l'état de droit plutôt que le règne du pouvoir sont désormais piétinés. L'insécurité et la peur dominent une grande partie des opinions des citoyens concernant l'avenir de l'Europe et du monde. La peur pousse certains d'entre eux à chercher des solutions et un soutien spirituel dans une vision objectivée et instrumentalisée de la tradition, parfois déguisée en un attrait pour les valeurs traditionnelles, ont-ils déploré. L'Inde est en pleine période électorale, le scrutin de législative s'étalant sur plusieurs semaines. L'un des principaux enjeux de ces élections est la préservation du modèle de sécularisme caractéristique du pays depuis son indépendance. Les chrétiens sont appelés par leurs évêques à voter pour les candidats qui sauront le mieux défendre le bien commun et le vivre ensemble. C'est ce qu'explique Mgr Félix Machabo, évêque du diocèse de Vasai.
L'Inde est un continent. Il y a une bataille intensive entre ces deux groupes partis au pouvoir actuellement et Congrès avec ses alliés. Pour l'Église, l'intérêt doit être plutôt pas l'égoïsme de l'Église, que nous devons avoir notre place et nous pouvons faire ceci, cela, mais entrons-nous ensemble dans le pays, qui est multireligieux, multiculturel. Disons, nous sommes en minorité. Alors, naturellement, il y a un peu de cette peur, un complexe, quelquefois. Il y a un complexe, et je dis tout le temps aux évêques, il ne faut pas avoir le complexe. Laissons-nous mélanger avec les autres. Et aussi, il faut respecter les gens des autres religions aussi. Il faut prendre un chemin qui ouvre un horizon d'espérance. C'est ça que l'Église doit faire. On a conseillé aux gens d'aller voter sans dire à qui voter, mais on a donné quelques lignes de guide. Par exemple, voyez qui vous votez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non pas pour l'Église, mais pour le pays.
Propos recueillis par Xavier Sartre. Après 7 mois de guerre en Terre Sainte, le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, s'était rendu à Gaza pour soutenir des centaines de chrétiens qui se trouvent encore dans le nord.
Chers frères et sœurs, alors que vous voyez ce message, je suis à Gaza pour rendre enfin visite à notre communauté chrétienne de Gaza. Cela faisait longtemps que j'avais le désir de venir leur rendre visite, de les rencontrer. Maintenant, j'ai cette opportunité et j'en suis très heureux. Le but de cette visite est avant tout d'être avec eux, de les embrasser, de les soutenir autant que possible, de vérifier leurs conditions, d'essayer de comprendre ce qui peut être fait pour les améliorer et de les aider de toutes les manières possibles. Nous avons besoin de vos prières et nous avons besoin que toute la communauté chrétienne soit unie dans la prière avec la communauté chrétienne de Gaza.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.